à tous et bienvenue dans La Note Originale, votre émission consacrée aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission en compagnie de, comme d'habitude, mes fidèles chroniqueurs, Henri Anaïs. Comment ça va?
Ça va.
Ça, c'était une balle. Ça vous donne déjà un petit indice sur quoi on va partir.
Oh, ça pouvait toujours être sur l'émission de la semaine dernière.
Ah ouais,
petit indice pour l'émission de cette semaine.
On était resté bloqué. Ça va bien?
Bah oui, et toi?
Bah ouais, ça va, ouais, génial.
Toutes les réponses.
Ok, d'accord.
Alors, du coup, on te retrouvera tout à l'heure, Anaïs, pour la biographie et le synopsis de ce film d'aujourd'hui. Et puis, Henri à la musique. Et Paul n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas pu être là, mais vous allez le retrouver bien vite. Si vous avez suivi hier, vous savez déjà de quoi on va parler. Vous avez pu essayer de jouer avec nous pour trouver l'énigme. Oui, parce qu'on fait une petite énigme tous les mardis soirs sur Facebook. Voilà, la pub est faite. Alors allez, sans perdre plus de temps, il s'agit aujourd'hui des Sept Mercenaires, le film Les Sept Mercenaires, réalisé par John Sturges et composé par Elmer Bernstein, dont on n'avait pas encore parlé. Pourtant, c'est pas n'importe qui.
Attends. Non. Et il y a plein de trucs dont qu'on pourrait faire.
Ouais. Ouais. Bon, ben on va passer à un premier extrait pour se mettre dans le bain. Oui, toujours le moine tibétain coincé dans le studio. Pas développé.
Il est dans le coin et il est là. Et...
Ah, il est là. Bah, il a fait vœu de silence. Du coup, il peut pas parler, il peut pas nous dire je suis coincé. Et du coup, il tape sur sa cloche. Elle va trop loin, cette vanne. Bon, avant d'en parler, bien sûr, un premier extrait. Il s'agit du thème principal sans. Sans surprise, donc vous allez tout de suite reconnaître, je pense, ce thème très culte, autant culte que Laurence d'Arabie, que culte aussi. Ouais. Culte on fait quoi. Des bisous à culte, hein, si tu nous entends. Allez, nous remontons à l'époque du Far West, prêt à partir à l'aventure dans les plaines de l'Arizona, en chevauchant notre cheval au moment du soleil couchant. Thank you. Nous sommes de retour sur RPL Radio, bien sûr, 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale. Nous sommes aussi également dans la note originale. Tiens, quelle coïncidence, on est ensemble. Voilà.
Heureusement.
Vous venez d'écouter ce premier extrait musical.
Ouais, c'est cosmique là.
Des Sept Mercenaires, bien sûr, composé par Elmer Bernstein. Et je laisse la parole à Anaïs pour un synopsis des Sept Mercenaires. Alors, bien sûr, on parle, au cas où c'était pas clair, on parle pas du film avec Denzel Washington et qui a été fait récemment. Hein. C'est, là, on parle du vieux film d'Antoine Fuqua, le remake. Là, on parle vraiment du film
1960.
Des années 60. Voilà. Donc, Anaïs, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu plus le contexte du film.
Au 19e siècle, au nord du Mexique, un petit village de paysans reçoit régulièrement la visite de Calvera et de ses 40 hommes qui pillent leurs récoltes et affament les femmes et les enfants. Agacés, les villageois se réunissent et décident d'agir pour ne plus subir les exactions des bandits. Trois hommes sont envoyés aux États-Unis pour acquérir des armes et ils font la rencontre de Chris Adams qui leur conseille de ne pas acheter d'armes mais de plutôt louer les services de mercenaires aguerris. C'est ainsi qu'ils recrutent avec l'aide de Chris six autres hommes pour défendre le village. Dès lors, les mercenaires forment les villageois à la bataille à venir.
Oui, totalement. C'est tellement bien fait, en fait, au niveau de la structure dramatique. Alors, on rappelle bien sûr que c'est un remake des Sept Samouraïs de
Akira Kurosawa.
Ouais. Effectivement, qui a adoré hein, le remake d'ailleurs, qui a adoré le film de John Sturge. Oui, parce que bon, c'est pas forcément toujours évident d'accepter un remake, surtout qu'ils sont pas si éloignés que ça en termes d'années, les deux films. Mais en tout cas, Akira Kurosawa a adoré. Qu'est-ce que vous en pensez du coup, les Sept Mercenaires ? Pour le coup, c'est pas un western spaghetti, parce que nous, on avait déjà étudié Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Là, on est vraiment dans un film américain avec John Sturges aussi, qui est dans cette tradition du western américain. Il reste dans cette tradition typique, ouais.
Tradition classique, ouais, toujours dans les mises en scène, en fait. C'est, j'y pensais sous ma douche ce matin. Et en fait, c'est intéressant de comparer justement, enfin, même si ça a pas trop d'intérêt, de comparer le remake et celui-là.
Non.
En fait, le remake, ce que j'aime bien, en fait, c'est que l'exposition du film de Sturges, en fait, est très simple. Les personnages, tu t'y attaches assez directement et leurs caractères sont définis très rapidement dans juste une courte séquence, un dialogue avec eux sans avoir besoin de rajouter en artifice.
C'est exact.
Tu vois, en sachant qu'à l'époque, c'était des trognes qui sont devenus célèbres par la suite, mais qui n'étaient pas encore les immenses stars qu'elles vont devenir. Steve McQueen, à l'époque, en fait, avait fait 5-6 films, tu vois, un truc comme ça, je crois, dont le premier film, Le Blob, en fait. Charles Bronson n'avait pas fait encore énormément de films. Eli Wallach non plus, qui fait donc Calvera, en sachant que donc leur période léonienne avec soit Il était une fois dans l'Ouest ou alors Le Bon, la Brute et le Truand, ça va être que 6 ans et plus, tu vois, plus tard. Et ça va être un tournant en fait aussi du western qui va relancer un petit peu des films qui vont partir sur autre chose, sur plus des espèces de grandes épopées, sur un style en fait, tu sais, avec ce côté recrutement, les personnages qui du coup ça sont les machins. Je me faisais la réflexion en regardant, en repensant au remake que j'ai vu il y a quelques temps, où t'as pas la même. Alors le film se veut plus cru, se veut plus réaliste et machin, mais t'as pas la même empathie pour les personnages, tu t'y attaches moins, alors que théoriquement leurs séquences de présentation sont beaucoup plus longues. Sauf qu'il y a tellement d'artifices dedans, tellement de trucs, qu'au final. C'est moins intéressant. T'as également aussi les caractères et t'as toutes les choses qui sont dites entre les lignes. L'alcoolisme de Robert Vaughn, par exemple, dans ce film-là, en fait, on n'appuie jamais, voire même, si je me souviens bien, elle n'est jamais énoncée clairement, si ce n'est par le dialogue, une fois qu'il sort de la pièce, entre Steve McQueen et Yul Brynner, où Steve McQueen fait le signe en mode la main qui tremble. Tu comprends, en fait, tu vois directement, qui sont tous des trucs beaucoup plus appuyés, encore une fois, dans le film de Fuqua. Donc, en fait, quand je dis ça, c'est juste que ça fait du bien de temps en temps de revoir des films comme ça pour un peu justement se rappeler que par simplement des détails assez subtils dans la façon dont ça va être mis en place, t'as pas besoin finalement de beaucoup d'artifices, t'as pas besoin d'un montage hyper cut, t'as pas besoin d'une action énorme, t'as pas besoin d'énormément
de dialogue parce que,
pour justement réussir à faire comprendre les caractères, à poser tes personnages pour que tu aies une empathie pour eux. Aujourd'hui, on a une empathie en découvrant le film aujourd'hui qui est décuplée parce qu'on connaît vraiment quasiment tous les comédiens du casting. Tu vois, dedans, t'as... Oui. James Coburn, t'as Yul Brynner, encore une fois, qui en impose comme pas permis, avec ouais. la petite anecdote rigolote où il reprendra son personnage plus ou moins en version monolithique dans le film Monde Ouest de Michael Crichton. Mmh.
C'est l'inspiration originale, voire le remake de Westworld.
C'est ça. Non, c'est tout à fait ça. De toute façon, ouais. Et du coup, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça qui sont hyper sympas et qui rendent encore plus galvanisant en fait les quelques moments de bravoure du film. Mmh. Et t'as un rythme en fait qui est vraiment d'un autre temps pour le coup. Et ce qui est surtout, très très amusant en fait, c'est qu'il y a des films comme ça que j'ai redécouvert. Tu vois, des films à peu près de la même époque. J'avais revu également La Grande Évasion et c'est marrant de voir en fait que ce sont des films dont tu as un souvenir d'un truc comme ça un peu plus rentre dedans. Et en fait, t'as indirectement, je sais pas comment l'expliquer, t'as une espèce de bonne humeur en fait constante dans le film.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et qui joue beaucoup à mon avis avec l'introduction du thème principal dès le début du film.
Bah, il marque la transition entre le western classique et le western spaghetti en fait. Je trouve que ça fait vraiment
les
une
années
transition.
60, ça va être la période de transition. T'as encore quelques films qui vont être là-dessus et puis à partir de 64-65, t'as l'arrivée effectivement en masse du western spaghetti avec Léoné et tout ça.
Alors c'est marrant parce qu'il y a une séquence que je trouve géniale et que elle est pas du tout en plan séquence, mais elle est tellement fluide qu'on a l'impression qu'elle est en plan séquence. Ouais. C'est la scène c'est en fait où les villageois sont en train de faire la fête du village qu'ils font annuellement et t'as tous les mercenaires qui sont entourés, qui sont en fait ils sont en train de faire leur job en fait. C'est-à-dire que eux en fait ils sont sur le qui-vive parce qu'ils savent pas quand les 40 mecs ils vont arriver pour tout détruire dans le village. Et en fait, tu vois qu'il y a des discussions qu'on n'entend pas. Ils viennent chuchoter aux oreilles et on voit les déplacements des personnages.
Et tu comprends parce que t'as l'enfant qui arrive d'abord et qui prévient Yul Brynner.
Voilà, qui prévient qu'en fait, il y a un danger qui va arriver. Ils savent ce qu'ils font. Il y a un côté vraiment professionnel. On dirait un film de Michael Mann où t'as l'impression vraiment d'observer des professionnels en train de travailler. Donc en fait, ils ont tous un rôle, c'est cette mercenaire que t'arrives à comprendre sans qu'on t'ait dit quel est leur rôle. En tout cas, ce qui est sympa, c'est ce que tu disais, Henri, c'est le côté, en fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue, on ne montre pas beaucoup de choses, mais on comprend tout. Mmh. On comprend tout ce qui se passe.
Rien qu'avec le visuel et la musique aussi, ça apporte...
Et la musique, bien sûr. Mais c'est...
Ça apporte quelque chose, et au niveau même paysage, l'ambiance des habitants...
Ça fait partie des films, en fait. Il y a une jouissance cinématographique. C'est-à-dire que la manière dont c'est procédé, pour le coup, on est vraiment dans l'art de l'image, expliquer un film, essayer de développer des sentiments avec l'image.
Ouais.
Bah, pour le coup, on est vraiment plein dedans. Quoi.
Cinéma est image à la base.
Voilà.
De base, c'est image. Censé apporter les émotions.
Et tu vois que finalement, les mecs, ils vont t'expliquer un truc quand ils sont obligés en fait, de pouvoir parler ou de communiquer.
Oui.
Mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Bah finalement, tu sais, les mecs qui sont en train d'attendre, ils ne vont pas aller discuter en disant...
Tu peux faire passer un message.
Moi, il y a des années, ma femme, elle a failli se faire tuer. Tu sais, pour avoir de l'origin story, en fait, on s'en fout de l'origin story. Il y a du mystère derrière. Tu vois déjà dans leur gueule qu'il y a c'est des personnes déjà blessées,
gestuel décor aussi, qui est important.
Voilà, bon, on va passer du coup à la biographie de Bernstein. Canis nous a préparé une petite biographie du coup. Donc je te laisse la parole pour en savoir un peu plus sur ce compositeur.
Alors, pour ce qui est de Elmer Bernstein, il est né à New York en 1922. Et il entamera très jeune l'étude du piano et donne son premier concerto à l'âge de 15 ans. Se désignant à une carrière de concertiste, il intégrera l'université de New York et sera l'élève d'Aaron Copland. Il travaillera conjointement comme arrangeur dans l'orchestre de Glenn Miller. En 1951, grâce à ses illustrations, il sera remarqué par la Columbia, qui lui demandera de composer la musique de Saturday's Heroes. Sa carrière prendra une toute nouvelle tournure et Bernstein se dirigera alors vers le cinéma. En 1955, Otto Preminger lui proposera de composer le score de L'Homme au bras d'or, la toute première musique hollywoodienne intégralement inspirée par le jazz.
Grave.
Ouais.
C'est hyper bien.
L'année suivante, il illustrera dans une tradition plus classique les 10 commandements de Cecil B. DeMille. Avec les 7 mercenaires en 1960, commence une nouvelle décennie pour le compositeur, dans la grande tradition américaine du western. À la fin des années 60, lassé de ce style de musique dont il pense avoir fait le tour, Bernstein ralentira son activité créatrice. Paradoxalement, en 1967, la profession le récompensera d'un Oscar pour le film Milly de George Roy Hill, mais aussi deux Golden Globes pour les films du Silence et des Ombres et Hawaï. Il se tournera alors vers la télévision et Broadway. En 1974, alors à la tête du National Philharmonic Orchestra, il entreprendra un travail d'exhumation des plus grandes partitions classiques recouvrant toute l'histoire du cinéma hollywoodien, travail qui se soldera par un échec commercial. En 1981, il compose Heavy Metal, une musique flamboyante.
ultra tuerie.
Où le compositeur réussit l'exploit d'unifier plusieurs genres cinématographiques dans un seul et même score ample, symphonique et majestueux. En 1985, suivront également le célèbre Taram et le Chaudron Magique, ainsi que le très décalé Drôle d'espion. L'artiste composera en 2002 sa toute dernière BO, Loin du paradis, un mélodrame de Todd Haynes très ancré dans les années 50. Influencé et influenceur, Elmer Bernstein fut, comme Maurice Jarre ou Bernard Herrmann en son temps, un compositeur qui a su révolutionner la composition de films et son approche expérimentale.
Oui.
Ouais, tu disais SOS Fantôme, ça reste culte aussi. Ouais. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'il a eu une certaine diversification. Après, il a eu des projets qui lui ont été piqués. Hein, dans mes souvenirs, Natigan, ça devait être lui qui devait le faire. Finalement, le projet a été donné à James Horner. Il avait fait un score complet pour Gangs of New York, qui finalement a été rejeté. Scorsese. Qui a été récupéré par Ward Shore, je crois, si je me souviens bien.
Ouais.
Donc, c'est un compositeur très intéressant à redécouvrir.
Merci beaucoup, Anaïs, pour ce synopsis et cette biographie. On passe sans plus attendre à un deuxième extrait pour continuer à s'immerger dans cette BO et étudier le travail de Elmer Bernstein, bien sûr. On fait travailler nos oreilles. Hein. Mmh. Alors, il s'agit du titre Petra's Declaration. Donc, c'est le petit moment romantique de du film, donc de la déclaration de Petra. En français, qui arrive au moment où je crois le plus jeune des sept mercenaires.
La tête à claque.
Chico, il s'appelle. Du coup, a une petite romance avec une des villageoises. Voilà. Donc, on retourne dans notre petit village du Mexique, entouré par sept mercenaires, sept anges gardiens. Nous sommes de retour sur RPL Radio, bien sûr, 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce second extrait des 7 mercenaires composé par Elmer Bernstein.
Hitchcock, ouais.
Elmer Bernstein. On passe tout de suite, sans plus attendre, à l'analyse d'Henri. On va savoir un peu plus sur comment a été fait cette BO. Et la musique en elle-même. Oui, tu voulais dire quelque chose.
Ouais, je reviens sur un truc. En fait, on n'a pas parlé, mais il avait fait aussi les musiques de Airplane. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bref, voilà. Aujourd'hui, en fait, on va se faire un petit western parce que ça faisait longtemps. Enfin, quand je dis petit, c'est pour la formulation, oui. Hein, parce que dans le genre culte et iconique, les sept mercenaires, ça se pousse quand même là. Et je dis ça autant pour le film de John Sturges que pour la mythique bande originale de Elmer Bernstein, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Bernstein a été engagé par Sturges, le réalisateur insiste vraiment sur l'importance de la musique dans ses films, pour lui, et de l'identité dominante qu'elle doit avoir, selon lui. Donc, du coup, d'un côté, Bernstein se souviendra de sa collaboration avec Cécile B. DeMille pour Les Dix Commandements, où celui-ci insistait fortement sur le rôle rythmique déterminant que la musique pouvait avoir sur le rythme d'un film. C'est-à-dire que tu pouvais instaurer une énergie et une vivacité à un montage qui était voulu beaucoup plus lent, qui allait prendre son temps, pour donner quand même une espèce d'énergie en fait, à ce moment-là, par exemple. D'un autre côté, le compositeur admet ne pas trop apprécier ce qui se faisait jusqu'à présent dans le genre du western, parce que c'est un genre qu'il considérait comme beaucoup trop codifié, cloisonné et surtout très attendu en fait dans les demandes. Ce que veut Bernstein, lui, c'est de l'inédit, c'est de l'extatique, c'est de l'aventure, surtout un petit peu galopante et flamboyante, tu vois. Donc une impulsion et un souhait créatif qui vont lui être soufflés premièrement par le travail de Jérôme Moros pour Les Grands Espaces de William Wyler, 4 ans auparavant. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, le thème des boîtes, c'est plus la musique est magnifique, vraiment, il y a des chances que vous connaissiez. Donc vraiment, moi je recommande. Et ce qui est intéressant, c'est que le score de Moreau s'inscrivait alors, on en parlait justement juste avant, Umberto, sans le savoir, ou voilà. Le score de Moreau, pardon, s'inscrivait alors dans une certaine tradition symphonique de l'Americana. Or, Bernstein voulait depuis très longtemps signer un thème profondément américain, puisqu'il était passionné depuis toujours par la musique folk, mais aussi inspiré par l'œuvre du grand Aaron Copland, qui, pareil, si vous ne connaissez pas, allez directement après cette émission écouter Rodeo Billy the Kid et surtout Appalachian Spring, puisque c'est splendide et puis c'est surtout indispensable. Donc Copland avait une modernité dans l'écriture et dans la dépiction musicale de l'histoire américaine et de la grâce des grands paysages du pays, qui influencèrent énormément Bernstein, notamment parce que, comme tu le disais, en fait, il a bossé avec lui. Ironie de la chose, Bernstein devait initialement travailler sur Les Grands Espaces dont je parlais juste avant, avant de voir le projet échoir à Jérôme Moros. Donc à partir de là, en fait, comme Bernstein avait commencé à travailler sur le film, toutes ses idées forcément allaient partir à la poubelle, et il s'est dit, bah tiens, je vais juste les réutiliser en fait. Donc toutes les idées qu'il avait accumulées pendant la production, il va les réinjecter dans Les Sept Mercenaires. De ce fait, Bernstein opte pour une illustration hautement dynamique et héroïque qui va instaurer en fait une aura assez flamboyante au Magnificent Seven, enrichissant d'ailleurs son orchestre avec des instruments à percussion mexicains et guitares qui vont ajouter à la couleur orchestrale. J'en avais déjà parlé, hein, si vous vous souvenez, sur d'ailleurs dans un contexte légèrement un peu western, si on veut vraiment étirer un petit peu, avec le Masque de Zorro. En fait, la couleur musicale, c'est le fait d'ajouter des instruments qui vont donner des indications quant au pays, quant au contexte, donc la flûte Sakuachi qui donnait une sécheresse, qui rappelait l'aridité du désert, ou alors les castagnettes et les trucs comme ça qui sont des instruments typiques. Donc là, en fait, on va avoir exactement la même chose et il va en mettre absolument partout. Donc c'est pas dans le sens ça dégueule, mais c'est hyper intéressant en fait comme choix parce qu'à l'époque, ça allait pas aussi loin en fait dans le concept, on va dire. Du coup, à partir de là, bah, Bernstein, lui, forcément, il va se faire plaisir en fait en déployant une créativité sans faille. Alors, Il va après surtout bien préciser encore une fois que la BO, en fait, lui, voulait toujours que ça soit excessivement juste et en rapport avec le film. Ce qui fait que, oui, il s'est fait plaisir. Et en même temps, il insistait sur le fait que, en même temps, c'était parce que le script l'appelait obligatoirement. Donc finalement, bah, c'était 50-50 les deux, ils ont trouvé leur compte. Et donc à partir de là, bah, c'est là que va se créer le thème mythique et chevaleresque des Seven. Ils vont en créer également un autre pour le ricanant antagoniste Calvera, donc joué par Eli Wallach, ou voilà, je ne sais pas comment on dit, tout aussi galopant, mais bien plus belliqueux dans l'approche, et en sachant que donc les deux vont contraster par rapport à l'autre. En sachant que tous les deux vont être sur une dynamique, justement, comme ça, très rythmée. Et justement, c'est ce qui va marquer d'autant plus la partition de Bernstein ici, puisque c'est une approche qui va rester ultra dynamique, ultra rythmique et colorée en fin de compte, rendant constamment vivante et entraînante la bande originale, chaque rythmique s'avérant également thématique, puisque chacune se voyant affiliée au club des Seven ou au gang de Calvera. Même dans les variations du thème des Sept Mercenaires, la rythmique que tu entends au début, tu vas l'avoir par exemple à la guitare, beaucoup plus soft, mais la rythmique va être la Calvera. Par contre, à certains moments, en fait, c'est juste l'espèce de rythmique galopante en fait, que tu vas avoir en arrière-plan, même pas encore le thème, le leitmotiv en fait, dans 3-4 notes, je sais plus exactement, j'ai pas compté, mais du coup tu vas avoir ce truc là et en fait c'est encore une fois on est dans cette logique de rappeler en fait, même par la rythmique elle aussi peut être thématique en fin de compte. Et donc ça va vraiment être une espèce d'illustration assez novatrice pour l'époque, hein, qui se verra pourtant détrôner quelques années plus tard seulement, avec un certain compositeur italien qui ajoutera lui une dramaturgie, une expérimentation assez inattendue, qui à leur tour marqueront à jamais l'histoire du cinéma. Donc en gros c'est une vraie, pardon, encore une fois, une vraie belle BO, novatrice hein, de surcroît, qui allait consacrer encore un peu plus Elmer Bernstein et qui contribua, après notamment Jérôme Moros et son The Big Country, à ouvrir la brèche sur une illustration musicale s'inscrivant bien plus dans le sillon d'Aaron Copland de l'Americana, avec des thèmes assez puissants et entraînants. Et je pense notamment, là, tout de suite, à Wallamo, par exemple, de Dimitri Tiomkin, sorti la même année en 60 également, ou à La Conquête de l'Ouest d'Alfred Newman et son thème extraordinaire. Pareil, encore une fois, je vous invite grandement à aller découvrir si vous ne connaissez pas autant le film que la musique. Oui. Donc bref, pendant cet été, faites du bien à vos oreilles, allez réécouter tout ça.
Ouais, totalement.
Sur un cheval, si vous voulez.
Sur un cheval, ouais, si vous avez la possibilité. Merci beaucoup, Henri, pour cette chronique. Bien sûr, effectivement, c'est vrai que... Bah, quand on s'écoute cette musique, d'ailleurs, des Sept Mercenaires, c'est vrai qu'elle sort du film, en fait, quelque part. Elle reste dans la tête.
Elle vit pour elle.
Elle vit pour elle, ouais. C'est génial, ouais. C'est génial qu'elle reste encore des années plus tard une musique culte du cinéma. Quoi.
Emblématique, ouais.
Emblématique,
l'histoire du cinéma, du western et puis l'histoire en général, ça fait partie des, fait partie des très grands thèmes consacrés désormais. Quand tu chopes les compilations, tu sais, les trucs en 3 CD ou machin, avec les plus grands thèmes, t'auras quasiment obligatoirement les 7 mercenaires dedans.
Vous pouvez retrouver cette émission sur nos différentes plateformes, si vous n'êtes déjà pas en train de l'écouter sur celle-ci, sinon sur le site RPL Radio. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bah non, on se retrouve pas la semaine prochaine, puisque c'est ce que je raconte.
Et
nous,
on se retrouve.
Non, on se retrouve pas la semaine prochaine. Bah, ouais, j'étais déjà pressé de recommencer la semaine prochaine, moi. Bah oui, parce que c'est la dernière émission de l'année sur RPL Radio. Alors, il y aura une émission spéciale qui va arriver, on sait pas quand, peut-être en juillet, peut-être. Voilà, on vous fera la surprise, mais on vous avertira, bien sûr. Faut nous suivre sur la page Facebook pour le savoir, par contre, là, parce qu'il y aura pas d'annonce sur RPL Radio. Voilà, on vous tient au courant. On fait un gros bisou à Paul aussi pour.
Comme ça, est-ce que c'est sympa de se faire des poutous?
Bah ouais, comme ça. Et puis du coup, nous, en attendant de se retrouver en septembre prochain pour la rentrée,
surtout
n'oubliez pas d'écouter des films. Voilà.
Salut
à tous.